Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre destination aujourd'hui est l'Algérie, avec toujours son cortège de condamnations depuis que les autorités d'Alger se sont mises en tête d'essayer d'incarner la justice et la lutte contre la corruption. Alors même si ce n'est pas le cas dans la vie quotidienne, le fait est c'est qu'il y a malgré tout des procès qui se tiennent, et notamment ce qui vient d'être décidé à Alger. C'est une peine de prison qui a été requise, donc elle n'est pas encore jugée. Le juge n'a pas dit encore que la peine de 10 ans sera prononcée, mais en tout cas elle est requise à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice, Taïeb Lout, ainsi que de 7 années toujours de réclusion criminelle qui sont demandées à l'encontre des principaux collaborateurs de ce ministre de la Justice, aujourd'hui en prison. Et parmi ses collaborateurs, il y a Saïd Bouteflika, qui était donc le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Donc maintenant, il y a les avocats qui vont rentrer en jeu et on verra en définitive est-ce que le juge va suivre ces réquisitions. Et puis toujours en Algérie, cette actualité qui concerne cette fois-ci la région, avec cette visite de quelques parlementaires libyens. Et à cette occasion, le président algérien Tebboune a déclaré que son pays était prêt à proposer de l'aide à la Libye pour organiser les élections dans chaque région. Alors, le président Tebboune n'a pas précisé quelles étaient les aptitudes de l'Algérie pour aider la Libye à organiser des élections, compte tenu notamment du fait de ce qui s'est passé ces dernières années en Algérie. Il n'y a pas d'éléments de précision qui peuvent nous amener à penser que les Algériens seraient en capacité d'aider les Libyens pour organiser ces rendez-vous électoraux. On sait qu'ils ont été découplés, hein. La présidentielle, ce sera au mois de décembre, et les législatives, ce sera au mois de janvier. On reste en Libye avec cette décision qui a été prise quelques jours après une réunion du comité militaire 5+5. Il était question de faire entrer 300 mercenaires syriens chez eux, les faire revenir au pays. Et bien finalement, c'est 520 mercenaires qui vont rentrer chez eux. Ceci donc dans le cadre de ce protocole d'action qui a été décidé par les autorités libyennes en vue de résoudre cette problématique très complexe, qui est celle des forces étrangères et celle des mercenaires qui sont toujours sur le territoire national libyen. Alors, on va dire qu'il y a deux zones qui, aujourd'hui, abreuvent la Libye en mercenaires. Il y a à la fois la Syrie et puis la zone Afrique Est, avec des hommes qui viennent du Soudan du Sud, parfois même du Tchad. Donc là, on est plus sur l'Afrique sahélo-saharienne vers le lac Tchad. Donc voilà, il y a ces apports en hommes. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces 520 mercenaires qui vont quitter la Libye, est-ce qu'ils rentrent chez eux en Syrie donc et ils ne sont pas remplacés, ou est-ce que c'est dans le cadre d'une rotation d'effectifs, auquel cas il y aurait d'autres hommes qui, dans les prochaines semaines, iraient les remplacer? Cela bouge en Jordanie avec cette quatrième décision de remanier le gouvernement. Le premier ministre jordanien Bichr al-Hassani a procédé donc à une refonte de ses effectifs. Alors, il ne s'agit pas vraiment à proprement parler d'une nouvelle équipe gouvernementale. Simplement, il y a des ajouts qui ont été faits, notamment des créations de ministères, un ministère des investissements, l'objectif étant de stimuler les investissements étrangers et puis aussi de créer des emplois. Aujourd'hui, le pays est confronté à un taux de chômage qui est important, qui est aux alentours de 25%, même si ce sont des chiffres qui courent. Hein. Les données officielles ne sont pas celles-ci, mais en tout cas, cela vous donne un ordre d'idée. Donc il y a pour la Jordanie le poids des migrants syriens qui sont toujours sur le territoire national jordanien. Il y a aussi des problématiques de sécurité pure hein, qui sont notamment liées à des problèmes de trafic de drogue qui viennent de l'étranger. Et puis cette problématique de la création d'emplois qui aujourd'hui est tout à fait saisissante et importante. C'est d'où l'intérêt de créer ce ministère des investissements. L'idée aussi, c'est de refaire de la Jordanie vraiment un pays en capacité de capter de l'investissement international et aussi de jouer de cette position géographique tout à fait particulière, singulière et en fait très profitable peuples, puisque vraiment la Jordanie, c'est le royaume qui est à la croisée de toutes les grandes nations du Proche-Orient, à côté de la Palestine, d'Israël, de l'Irak, de la Syrie. C'est vraiment un pays qui a une géographie qui est très favorable au commerce. C'est donc tout l'intérêt de ce quatrième remaniement gouvernemental qui a été décidé par les autorités d'Amman. Et maintenant, en Irak, le plus difficile reste à faire. Il va falloir trouver un premier ministre, former une équipe gouvernementale. Ça va être compliqué puisqu'on commence à y voir plus clair sur le résultat des élections législatives qui se sont tenues ce week-end dernier. Donc, sans entrer dans l'exactitude des chiffres, disons qu'il y a trois tendances qui s'observent. D'abord, la victoire revient aux hommes de Moqtada Sadr, ce que l'on appelle le bloc Sadr, qui correspond à la tendance chiite nationaliste irakienne. La tendance qui répond au nom de Al-Fatah, qui est celle des groupes armés pro-iraniens, accuse une défaite. Ça, c'est une véritable information, parce qu'on a toujours l'image d'un Irak qui est sous domination ou sous influence iranienne permanente. Et là, on se rend compte que les quelques 40-41% d'électeurs irakiens qui sont allés aux urnes ont dit non, on ne veut plus de cette prééminence des milices pro-iraniennes. Et puis, il y a ce troisième point qui est intéressant, c'est celui de tous ces jeunes parlementaires qui sont issus des manifestations des années 2019, 2020 et aussi d'ailleurs 2021, puisque les manifestations sociales ne se sont jamais véritablement arrêtées en Irak. Et eux aussi, ils sont entrés au Parlement. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu? Est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer face aux vieilles formations politiques irakiennes? Parce que le bloc Sadr, bon, même si il est né sur les cendres de la guerre d'Irak, bon, enfin, il n'en reste pas moins que ça reste une expérience acquise par le mouvement sadriste. Comment ces jeunes qui arrivent en politique vont-ils faire pour s'imposer, pour faire admettre leurs idées, qui veulent tourner l'Irak vers l'avenir? Ça va être compliqué, déjà par le nom du Premier ministre, quand on saura qui a été choisi, donc en fait qui a été retenu et qui a été l'hypothèse consensuelle pour chaque partie irakienne qui aura participé à la discussion, aux négociations sur le nom du Premier ministre. Ne serait-ce par le nom de cette personne, on aura une indication très claire sur ce que sont les rapports de force aujourd'hui en Irak.
Asie majeure, mineure, dièse ou bémol, Asie mute.
Notre destination aujourd'hui, c'est l'Asie et aussi c'est ce geste qui va être fait, qui va être annoncé à l'occasion du G20. 1 milliard d'euros en faveur de la population afghane et des pays voisins. 1 milliard d'euros donnés par l'Union européenne, une somme tout à fait considérable. L'objectif est d'éviter un effondrement humanitaire. Alors, est-ce que c'est un geste qui est pétri d'humanité, puisque 1 milliard d'euros, c'est une somme considérable, ou est-ce que c'est un geste qui est fait pour empêcher une vague migratoire? On sait qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités de Kaboul ont leurs avoirs qui sont gelés par les Américains. Il y a eu des négociations le week-end dernier. Il devait être établi si oui ou non les autorités de Kaboul, les nouvelles autorités talibanes de Kaboul, allaient pouvoir récupérer cet argent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les autorités de Kaboul ont besoin d'argent pour pouvoir faire tourner le pays. Est-ce pour autant que cela va empêcher une vague migratoire majeure qui, dans un premier temps, va se dérouler dans les pays voisins? Il peut s'agir à la fois du Pakistan, mais aussi de pays qui sont limitrophes, hein, par exemple l'Ouzbékistan, par exemple le Tadjikistan. Et c'est là aussi où il y a des craintes de mouvement de population. Donc en fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est de l'humanitaire au sens propre du terme, ou est-ce que c'est de l'argent qui est donné pour essayer de tenir les populations le plus loin possible, le plus éloigné possible des frontières de l'espace Schengen? C'est peut-être un peu des deux, l'une des deux raisons, mais le fait est, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même absolument étonnant de voir l'argent que l'Union européenne continue de dépenser sur ce pays, l'Afghanistan, alors que ses troupes ont été battues militairement suite à l'aventure américaine qu'il y a eu durant 20 ans en Afghanistan. Mais il y a malgré tout cette volonté en Europe de ne pas abandonner, de ne pas laisser des populations loin de tout, loin de tout secours. Maintenant, on pourrait aussi se demander, est-ce qu'il y a d'autres grandes nations, d'autres blocs géopolitiques d'importance qui vont faire des gestes à l'égard de l'Afghanistan. Pourquoi la Chine, qui par exemple a beaucoup d'ambitions économiques pour pouvoir exploiter les minerais de l'Afghanistan, est-ce que la Chine va faire un geste, par exemple, de quelques milliards? Je crois que la Chine en a tout à fait les ressources financières pour. Ou est-ce que la Chine ne va pas aider l'Afghanistan et simplement ponctionner ses richesses pour ensuite aller les faire fructifier? Ce sont là des questions qui se posent.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.